Radio Barque numéro 19, notre deuxième partie, Michel prévoit dans le sommaire ce que tu appelles, et tu as fait un billet d'ailleurs assez extensif là-dessus, sur la vraie fausse annonce de la prison à Narbonne.
Oui, Jean-Claude.
Alors pourquoi vraie fausse? Parce que ce vendredi, dans tous les médias à Narbonne, on parle que de ça.
On parle que de ça. Et, alors jeudi soir, enfin, moi j'ai découvert cette information jeudi soir sur mon écran d'ordinateur. Et sur le coup, c'était vers les 17h30 à peu près, quoi, hein. J'ai piqué une colère, mais alors de froide à ma manière, hein, donc je ne suis pas du genre à gueuler dans les rues, bureau.
T'as rien cassé chez toi quand même.
Froide à la lecture de Midi Libre qui titrait « L'Occitanie, hein, ministre de la Justice, annonce 5 nouvelles prisons en région. Point. » Hein. Et puis, j'aurais l'indépendant. Alors là, bon, c'était encore pire, en fait, hein. La prison à Narbonne, ça chauffe. Hein. La garde des Sceaux annonce la construction d'une maison d'arrêt à Narbonne. Point. Donc, alors, je veux dire... Alors, ça m'a foutu en colère froide. Pourquoi?
Et pourtant, nos deux parlementaires ont confirmé.
Mais oui, mais c'est ça qui est absolument terrible. Quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que les parlementaires diffusent comme communiqué de presse, avec leur ministre en fait, comme ami, est systématiquement repris sans aucune analyse sérieuse par les journalistes de notre région, ce qui est proprement scandaleux du point de vue de la réalité de l'information, encore une fois, que donnent ces titres. Mmh. Parce que contrairement à ce que nous laissent croire ces deux titres, et surtout ces deux articles, d'une complaisance inouïe, la mise en œuvre de cette programmation budgétaire hein, qui permettrait, et un calendrier favorable, hein, qui permettrait la construction prochaine de prisons dans la région en général et à Narbonne en particulier, c'est faux.
Alors tu as fait des recherches circonstanciées là-dessus.
Bien sûr, alors je rappelle donc aux esprits oublieux et à ceux qui nous prient pour des billes, passez-moi la vulgarité de l'expression, encore qu'elle ne l'est pas trop, parce que je suis sûrement encore en colère ce matin, hein, que ce programme de construction de 33 nouveaux établissements pénitentiaires, et leur localisation d'ailleurs, hein, est dans les tiroirs de la chancellerie depuis au moins 3 législatures.
Ça fait 15 ans.
15 ans. Deux, que le calendrier de ce programme-là, qui nous est présenté comme, pas présenté de manière rigoureuse hein, par nos journalistes, en fait, est étalé jusqu'en 2025,
hein, oui.
Sans ordre de priorité précis. Hein, autre que celle accordée aux, je cite, régions connaissant une surpopulation carcérale élevée. Trois, Jean-Claude. Que les 9 premiers projets prioritaires concernant les agglomérations de Nîmes et Strasbourg ont déjà été définis en septembre 2016 par le même ministre Urvoy. Hein. 4. Qu'il faut au moins 10 ans en moyenne pour construire une seule prison. 5. Enfin. Que si une loi de programmation a bien été votée par l'actuelle majorité, 1 milliard 158 millions d'euros. Seuls, cependant, et j'insiste, 2,5 millions ont été budgétés pour 2007 en crédit de paiement. Ça veut dire quoi, ça, Jean-Claude? Ça veut dire qu'il appartiendra à la nouvelle majorité issue des urnes au mois de mai et au prochain gouvernement de trouver les milliards, les millions et millions d'euros qu'il conviendra pour seulement réaliser les 9 premiers projets prioritaires dont Narbonne ne fait pas partie. J'insiste. Et ça, nous le savons depuis septembre 2016. Alors, sachant tout cela, Jean-Claude, je demande donc à nos auditeurs de faire un petit calcul prévisionnel pour essayer d'imaginer s'ils le peuvent, moi je ne suis pas arrivé, quoi, hein, l'année où ils verront sortir de terre cette prison dont se glorifie pourtant notre couple de parlementaires locaux, Jean-Claude. Hein. Et alors tout ça, ça veut dire quoi, hein? Que c'est pas sérieux, pas vraiment pas sérieux, qu'on nous prend pour des billes, en fait, j'insiste, que bon, ces opérations de communication, comme je l'ai déjà indiqué dans la chronique précédente d'ailleurs, hein, relèvent de la fabrication d'argumentaires et de plans médias plus ou moins bien bidonnés d'ailleurs, pour le profit des députés et sénateurs de leur propre majorité. Voilà à quoi nous en sommes arrivés aujourd'hui et qui illustre parfaitement ce genre d'annonce. Donc des nuées d'illusions, Jean-Claude, vont cesser de nous tomber dessus sur la tête, hein, relayées souvent et à parapluie fermée d'ailleurs, entre parenthèses, par des médias trop pressés, et je suis gentil en disant trop pressés, comment s'étonner ensuite? Et c'est là où ça pose problème quand même, quoi, hein, que les Français en général n'aient plus confiance en leurs hommes politiques, ce que relèvent des enquêtes d'opinion depuis maintenant de plusieurs années.
Oui, ça c'est pas nouveau.
Comme les grands médias, d'ailleurs, depuis aussi de nombreuses années. Quoi. Alors, demain, je crains, d'ailleurs, sans rire pour le coup, hein, qu'un ministre se pointe encore enfin, dans notre région, toujours à l'imitation de nos parlementaires locaux, afin de nous présenter en fait, la maquette de la future gare TGV, en fait, Jean-Claude. Hein, pourtant, elle aussi renvoyée au calendrier grec depuis maintenant quelque temps. Et j'imagine la scène qui pourrait bon amener tous nos élus en fait, hein, devant les journalistes réunis en conférence de presse dans une visite de chantier en compagnie de tout un contingent d'élus locaux pour l'occasion en dimanche. Et pourquoi pas un concert de la monnaie municipale tant qu'à y être, un lâcher de ballon quoi aussi.
Voilà, charmant spectacle en perspective.
C'est pour ça, Jean-Claude, que je dis en fait, à nos deux en fait, parlementaires locaux, madame, monsieur, en restant courtois, ça suffit. Ça suffit vraiment.
Voilà, bon, c'est ce qu'on appelle hélas de la com, et c'est devenu, on comprend pourquoi, un mot extrêmement péjoratif de nos jours. Un autre phénomène qui peut choquer aussi l'opinion publique et enfin, les militants à plus forte raison, notamment les militants socialistes, c'est la façon dont certains, justement, socialistes, militants, mais apparatchiks et profiteurs du système, quitte le navire.
Bien sûr, Jean-Claude. Information qui a été passée sous silence, hein, enfin, en tout cas qui n'a pas fait l'objet de grands commentaires dans les médias locaux. Dans le dernier Canard enchaîné, on y découvre la liste des parlementaires socialistes qui n'ont pas payé les cotisations dues au groupe socialiste de l'Assemblée. Et dans ce groupe figure dans la shortlist, si je puis dire, le député de l'Hérault, notre voisin, président... En même temps, donc un cumulard, si on peut dire, du conseil départemental de ce même département, M. Kléber Mesquida, qui, voyant son nom dans la presse, hein, pourtant c'était pas un article particulièrement,
c'était méchant,
un petit article,
méchant,
quoi, méchant, quoi, furieux de voir son nom, et surtout sa dette, hein, est allé sur la place publique, a adressé illico sa démission au président de son groupe. Évidemment, ça a réglé sa facture. probablement que le montant total de ses indemnités, il a le plafond, quoi. Hein. Il lui a semblé, au regard de cette dette qu'il devait régler, amputée d'un pouvoir d'achat insupportable pour lui. Sans doute.
Mais une petite parenthèse, on s'est aperçu au moment des primaires que les candidats Montebourg, Payon était aussi fort en dette envers leur parti.
Oui, et Payon en particulier, qui a d'ailleurs la plus grosse dette, il avait
joué. Payon, contrairement à ce qu'indique son nom, nous ne payons pas du tout.
Oui, donc il a été obligé de régler une facture relativement élevée, et a posteriori, on peut se dire que l'investissement du coup qu'il a fait, si je puis dire, en réglant sa facture, n'a pas été payé de retour, quoi, hein, puisqu'il s'est fait vite fait éliminer.
Et rappelons quand même
primaire.
Qu'il est normal qu'il règle ses cotisations parce qu'ils doivent tout au parti.
Mais bien sûr, quand même. En même temps, bon, ça fait drôle de voir des élus qui, quand il s'agit de l'argent des patrons, par exemple, ou de nôtre, hein, est systématiquement critiqué, mais
là,
quand il s'agit de leur...
Là, ils sont impitoyables.
Quand ils sont là, ils sont impitoyables sur le moindre petit euro, en fait, qu'on voudrait leur retirer. Alors, quand même, là, bon, ce qui est tout à fait inadmissible, c'est que des élus comme ceux de députés et présidents du conseil des départements de l'Hérault, quand même, doit toute sa carrière, je veux dire, tout son statut, à la fois symbolique et financier, au parti, je veux dire par là que sans l'étiquette, sans la marque, en fait, parce qu'il ne serait jamais devenu ce qu'il est. Il aurait peut-être été un obscur fonctionnaire de la direction départementale de l'agriculture au département de l'Hérault, même si, au terme d'une longue carrière, en fait, dans le même endroit, il aurait pu, à l'ancienneté, acquérir un certain revenu. Mais certainement pas celui, en tout cas ce qu'il a aujourd'hui, avec le cumul de ces deux indemnités de député et de président du conseil départemental. Donc voilà.
Ce qui est choquant ici, c'est le manque de reconnaissance, une ingratitude extraordinaire.
Total. Bon, c'est à la fois un comportement qui dénote un manque de dignité, de loyauté, quand même, à l'égard du parti qui l'a fait, en fait, à cet homme-là, en fait, en termes, en tout cas, de patrimoine financier, de reconnaissance symbolique, etc., que je trouve particulièrement indigne, c'est le mot qui me vient spontanément à l'esprit, et qui, je trouve, de la part bon, de quelqu'un qui milite au plus haut niveau dans un parti qui a fait justement de la dignité en fait, des autres, en fait, et des hommes en particulier, le fond de son combat politique est particulièrement désespérant, si je puis dire, pour ceux qui se reconnaissent dans cette mouvance politique-là. et même pour les autres d'ailleurs, qui ne sont pas exempts aussi, en tout cas pour ce qui me concerne, de cette dignité-là que l'on doit accorder effectivement à tous, et en particulier aux gens qui ont le moins de moyens, oui. En tout cas moins de moyens financiers que ce député, cumulant aussi ses indemnités avec celle de président du conseil département de l'Hérault.
Avant de marquer une pause, la dignité, remarquerons-nous, devrait s'enseigner dans les partis politiques.
Oui, et entendons, c'est vrai qu'on vit une époque, Jean-Claude, où justement cette valeur-là est en train de, vraiment, hein, de disparaître de tout un champ de notre société.
D'être totalement galvaudée.
Galvaudée.
Et on marque une deuxième pause.